Depuis que le 20 avril 1994, je fus découpé à la machette avec 43 personnes de ma famille sur la colline de Mugina au cœur du Rwanda, je n'ai plus connu la paix. J'avais 15 ans, j'étais heureux. Le ciel était gris, mais mon cœur était bleu. Mon existence a soudainement basculé dans une horreur inexprimable dont je ne comprendrai probablement jamais les raisons ici-bas. Mon corps, mon visage et le plus vif de ma mémoire emportent les stigmates jusqu'à la fin de ma vie, pour toujours. 20 ans et 7 mois nous séparent des événements relatés par Révérien Rurangwa dans Génocidé et le colloque qui nous réunit pendant 3 jours se présente comme un triptyque en résonance avec cette histoire qui n'en finit pas de s'écrire. Il s'est ouvert hier au théâtre de Versailles-Saint-Quentin avec une journée consacrée au génocide des Tutsis du Rwanda. 20 ans après, bilan et questions historiographiques. Il va se poursuivre aujourd'hui dans l'amphithéâtre Buffon qui nous réunit à l'Université Paris-Diderot avec une journée sur la construction des mémoires du génocide des Tutsis, avec une évocation des représentations médiatiques et artistiques de l'événement, ce qui vous donne déjà le fil rouge de cette journée. Et demain, dans la salle Jean Jaurès de l'École normale supérieure, nous aborderons le troisième volet de ce triptyque avec littérature, théâtre et témoignages. Pour quel dialogue contemporain ? Alors, ce colloque international qui croise les regards et les approches se situe à la croisée des disciplines et des cultures. Il tisse l'histoire et la mémoire, les sources orales et les archives manuscrites, la littérature et les arts, le texte et l'image, le texte et les images. C'est un colloque qui s'attache déjà à mettre en perspective les mémoires individuelles et la mémoire collective, l'histoire et les histoires, les récits médiatiques, les récits historiques, les témoignages et les fictions, les documentaires et les reportages et les constructions mémorielles dans lesquelles ces récits s'inscrivent. Alors, si je suis ici ce matin, je suis Bernadette Bricou, vice-présidente à la vie culturelle et à l'université dans la ville de l'université Paris-Diderot. C'est d'abord pour vous demander d'excuser l'absence de Christine Clérici, notre présidente, qui aurait aimé être avec nous ce matin pour l'ouverture de ce colloque à Paris-Diderot, de cette journée à Paris-Diderot, mais qui malheureusement est retenue par des contraintes, des obligations auxquelles elle ne peut se souscrire. Vous pensez que je ne me suis pas présentée en ouverture selon l'usage. Je crois que ça n'était pas de ma part une erreur. Je crois vraiment que nous nous inscrivons ici dans une longue chaîne de transmission. Et je sais par avance que les gens que je vais remercier ne sont que des maillons particulièrement forts de cette chaîne. Mais par avance, ma liste ne sera pas exhaustive et je vous prie de m'en excuser. Remercions d'abord, si vous le voulez bien, les organisateurs et les institutions ou les organismes qu'ils représentent. Catherine Cocchio, donc membre du CERILAC à l'Université Paris-Diderot, qui dirige avec Claude Millet l'axe « Penser et écrire l'histoire du CERILAC » et qui anime un séminaire mensuel que peut-être certains d'entre vous suivent régulièrement « Penser et écrire l'histoire à l'échelle du monde ». Vous voyez, c'est un programme pour le CERILAC, mais c'est aussi l'un des enjeux majeurs de notre université dans le monde où nous sommes, penser et écrire l'histoire à l'échelle du monde. Et je crois que la résonance avec le colloque qui nous réunit est particulièrement perceptible. Remercions Virginie Brinker de l'Université de Bourgogne, CPTC, Alexandre Dogeroth du Bates College et Nathan Herrera qui lui appartient au LABEX Création, Art et Patrimoine Toutes les fois que je le peux, j'essaie de les donner. Je suis un peu brouillée avec les sigles. Il y en a tellement. À l'Université Paris 1, Alexandre Daugereau et Nathan Rera qui ont pris une part décisive à l'élaboration du cycle de films. Nous avons vu dans le cadre de Ciné Diderot, Sometimes in April, mercredi. Et ils ont également porté très largement cette journée du vendredi qui va porter en grande partie sur l'image et sur les images. Éric Opneau de l'ESPE de Paris, de l'Université de Paris-Sorbonne, et François Robinet du Centre, avec le Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui lui aussi a pris une part si importante à l'élaboration de ce colloque et de toutes les manifestations qui le précèdent ou qui le suivent. Remercions bien sûr les membres du comité scientifique, le temps me manque pour les énumérer, qu'ils me pardonnent, nos partenaires scientifiques, Jean-Charles Darmon, responsable du Centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale pour le CNRS, le ENS et le Collège de France, qui nous accueillera demain. Éric Marty, membre de l'Institut universitaire de France et responsable de l'axe Pensée et création contemporaine pour le CERILAC de l'Université Paris Diderot. Étienne Tassin de l'Institut des humanités de Paris. Jean-Claude Yon de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Rappelons que cet événement a été conçu et porté avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de l'Institut des humanités de Paris, de la région Île-de-France, de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Remercions encore nos partenaires culturels, le Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, bien sûr, le service culture de l'Université Paris Diderot avec l'équipe de Christiane Fortassin, comme ce sont des gens avec lesquels j'ai la chance de travailler pour tous les jours, eh bien vous me permettrez de les nommer car ils ont tout au long de ces derniers mois pris une part très active à l'élaboration de ce colloque Rwanda qui était l'un de nos horizons d'attente et à l'élaboration aussi du cahier. Christiane Fortassin, bien sûr, Julien Wax, Françoise Boisdur, Alexandra Pichetta. Remercions tous les comédiens du groupe OFF, le cinéma des Trois Luxembourg, le groupe OFF que nous reverrons ce soir avec la cantate de Bicécéro, bien sûr, spectacle auquel nous nous retrouverons. Remercions la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national de l'audiovisuel et l'espace 1789 de Saint-Ouen dans lesquels nous réunira cette cantate. Des remerciements plus particuliers ont été adressés par les organisateurs et je me fais ici leur écho. À Christiane Fortassin, à Clarisse Ponsevera qui a réalisé le très beau cahier pour la direction de la communication, le très beau cahier qui accompagne ce colloque et cette manifestation, Christophe Calais qui nous a proposer cette très belle affiche qui sert de couverture au colloque, une image entre les images. Vous allez vous dire que c'est une liste bien longue de remerciements, même si elle n'est pas exhaustive. Mais je voudrais vous dire qu'un événement comme celui-là, au centre duquel se trouvent des questions qui concernent la transmission, la parole et le texte, les histoires, l'histoire et les histoires, la mémoire individuelle et les mémoires collectives, la question de la responsabilité aussi, qui sera si présente dans les journées que nous organisons, un tel colloque n'est pas possible sans le tissu humain très serré et très dense, qui permet, par une implication patiente et passionnée, de mener à bien une entreprise de ce type. Il y a les acteurs, il y a les témoins, il y a les comédiens, il y a les artistes, il y a vous-même ici qui allez nous prêter vos oreilles et qui ont participé ou participeront aux débats qui vont suivre. Et sans chacune et chacun d'entre vous, un tel événement ne serait pas possible. Que chacune et chacun soit donc très chaleureusement remercié. Il y a un très beau proverbe japonais, vous me pardonnerez de faire un saut, mais au fond la mondialisation le permet, jusqu'à l'Extrême-Orient, pour dire que les mots que nous n'avons pas prononcés sont les fleurs du silence, que les gens que je n'aurais pas nommés eh bien, font partie, bien sûr, de ce tissu. Aucun aphorisme, aucune pensée, aucune philosophie ne peuvent se comparer en intensité, en plénitude de sens, avec une histoire bien racontée. Ces lignes sont de Hannah Arendt. Mais vous le voyez, dans le cas du colloque Rwanda, eh bien, cette histoire n'en finit pas de s'écrire. Bon colloque, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Bernadette Bricout, pour ce propos introductif. Merci beaucoup aussi, je crois, on peut le dire au nom des organisateurs, pour le soutien sans faille que vous avez accordé à cette manifestation. Ça contribue très largement à la réussite de celle-ci. Et en particulier, on va l'espérer au moins, à la réussite de la journée, construction des mémoires du génocide des Tutsis, représentation médiatique et artistique de l'événement. Alors, évidemment, vous avez brossé les attendus pratiquement de cette journée. On a le programme sous les yeux. Alors, je précise d'emblée que Linda Melbourne ne peut pas être parmi nous ce matin, donc s'excuse. Hein, on va travailler un tout petit peu différemment.
Je profite, vous me pardonnez. Oui. Les risques de l'oral, de cette faille que vous m'offrez et de cette liberté que je prends et que vous me pardonnerez. Je n'ai pas remercié et je ne me le pardonnerai pas nos amis qui sont derrière la vitre et qui nous accompagnent, Patrick et Romain Bouige de la cellule événementielle de la direction Vite Campus. Et vraiment, ce serait un remords que j'aurais porté toute la journée. Donc pardonnez-moi, c'est un post-verbum. Voilà, merci Patrick, merci Romain.
Bon, ben voilà. Oui, les propos introductifs ont du bon, hein. Ça permet de rendre justice à chacun. Bon, pour ma part, moi aussi, je suis très heureux d'être dans cette salle parce que ça concrétise un des éléments de collaboration entre le CERILAC et le Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine. C'est le cas pour cette manifestation, mais pour d'autres aussi. Et on va travailler notamment avec Joël Lemarec sur un certain nombre de thématiques. Donc, c'est symboliquement, c'est quelque chose d'assez important. Alors, je reviens à la journée. Il y aura donc trois interventions de 25 minutes. Hein, et là, on sera juste dans les temps. Donc, au fond, c'est très bien. Puis, il y aura une discussion générale à l'issue des trois présentations. Sur le fond, ça a été dit à l'instant, je crois que cette question du récit médiatique ou des récits médiatiques est extrêmement importante. On raconte des histoires, on raconte l'histoire, ça a été dit. Il y a un impact maintenant, en 20 ans, sur l'historiographie aussi, qui reste à interroger. Bon, et les constructions mémorielles sont nombreuses. Bon, on a là un paysage qu'on connaît bien lorsqu'on s'occupe des questions mémorielles ou d'écriture de l'histoire. Reste à savoir comment ça se joue précisément pour le Rwanda maintenant. Alors, ce qui est intéressant vraisemblablement dans les trois interventions que nous allons écouter, que nous allons discuter, c'est qu'elles permettent, ces interventions, vraisemblablement, un retour sur les pratiques d'enquête et sur la manière dont on restitue les résultats de celles-ci sous des formes d'écriture différentes, au sens large, hein, ça a été dit tout à l'heure, avec aussi, mais je ne crois pas que ce soit abordé là directement, vraisemblablement, l'impact des technologies. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra réinterroger aussi le rôle de celles-ci dans la construction des mémoires et dans l'écriture de l'histoire. Et un des points qui ne manquera vraisemblablement pas d'être interrogé aussi, c'est la dimension réflexive dans le milieu médiatique par rapport à ces 20 ans de recul, puisqu'on est, sans mauvais jeu de mots, dans l'après-coup. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. On n'est pas seulement dans l'ordre de la commémoration, ici on est dans l'ordre de la gestion du temps et de l'impact que cela peut avoir sur l'écriture de l'histoire et de la mémoire. Et les trois interventions qui vont nous être présentées ce matin me semblent particulièrement intéressantes parce que, a priori, elles mettent en tension à chaque fois deux éléments. Il me semble, dans la première qui va s'intéresser à la question des magazines télévisés, on est dans une prise de recul, une prise de temps, un format, comme on dit professionnellement, un peu différent de celui, par exemple, d'un journal télévisé. Donc, il y a une tension entre deux formats à l'intérieur de l'univers télévisuel. Dans la deuxième intervention qui va être centrée sur l'espace médiatique, on ne se situe pas dans ce qui s'appelle plus classiquement un espace public. Donc, il y a bien un lien entre les deux, mais ce n'est pas exactement de même nature. Donc, on pourra voir comment se jouent les tensions entre ces deux éléments. Et dans le troisième cas, c'est évidemment classique, mais néanmoins tout à fait passionnant, il y a une redéfinition des rôles entre les polarités journalistiques et les polarités littéraires. Hein, et Hatzfeld, à sa manière, incarne cette tension-là. Voilà. Donc, il me semble que la problématisation du propos est forte et nous allons vraisemblablement en tirer bénéfice sur le plan scientifique. Alors, la première intervention, retour au pays, retour à la vie, le Rwanda dans les magazines d'information télévisée français 1994-2014 par François Robinet, qui est à ma droite. Ça a été souligné par la vice-présidente, il a eu un rôle éminent dans l'organisation de cette manifestation. Vous le connaissez, j'imagine, puisque vous avez dû avoir affaire à lui pour la préparation du colloque, maître de conférence en histoire contemporaine à Verseilles-Saint-Quentin en Yvelines, un des spécialistes des conflits africains, et il est collaborateur d'un certain nombre de journaux et de revues scientifiques, dont Le Temps des médias. Il anime également le festival Les Médiatiques. Voilà, donc 25 minutes, je serai un peu gardien de la clepsydre, donc je me permettrai de faire passer un petit